Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, c'est particulier, c'est spécial. Non seulement c'est la deuxième semaine consécutive où Robert Blondin nous parle toujours de bonheur et de ses bonnes nouvelles en direct du Nicaragua, mais je ne suis pas seule en studio. Cette semaine, j'ai la chance et le privilège et l'honneur, mon Dieu, de co-animer cette émission avec Catherine Bourderon au micro.
Je suis très contente. Merci, c'est gentil. C'est partagé.
Catherine, qui est venue s'asseoir quelques fois sur nos chaises pendant Aime la vie, puis elle me disait toujours, un jour, je vais rester assise. Bien, ce jour-là est arrivé.
Bien, la recherchiste est passée devant le micro.
Voilà. Et cette semaine, non seulement on vous parle de bonnes nouvelles, on vous parle de nouvelles différentes. Catherine nous partagera également ce qu'elle a trouvé de beau dans le monde cette semaine. Mais on reçoit aussi à l'émission Jean-Sébastien Trudel, auteur environnementaliste et initiateur du défi Ma journée idéale. Oui, on parle du bonheur d'être productif. Bienvenue à Aime la vie. C'est vrai que tu as passé quand même... tu es recherchiste, d'ailleurs, sur l'émission. Je te nomme à chaque semaine pour ceux et celles qui écoutent l'émission à chaque semaine. Tu es dans mes remerciements quand même à chaque semaine. Et là, cette semaine, tu es à mes côtés. Je suis très, très contente.
Moi aussi, c'est fort agréable. Et les invités que nous choisissons ont tellement des choses intéressantes à dire. C'est des gens qui sont inspirants, je crois.
Oui, parce que tu es non seulement la voix, mais le cerveau qui a les idées pour les merveilleux invités qu'on a ici à Aime la vie chaque semaine. C'est incroyable. Et pour la première fois, tu pourras au moins leur dire un petit coucou en ondes. C'est génial. Cette semaine, je commence tout de suite. On parle de quelque chose de grand. On parle de l'univers. Aujourd'hui, rien de moins. On le sait que l'univers, il est infini. Et ce qu'on en sait actuellement représente davantage nos limites que la sienne, en fait, que les siennes. Mais on continue et on persévère à essayer de le découvrir le plus possible. Et récemment, il y a une nouvelle map de l'univers qui a été rendue publique. Et voici ce qu'on y découvre. Il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, c'est pas un domaine que je connais énormément et j'ai...
Pas ton univers.
Ce n'est pas mon univers, mais je vous garantis qu'après avoir fait les lectures que j'ai faites cette semaine, si je joue à quelques arpents de piège dans les prochaines semaines, il y a au moins 5 nouvelles questions que je vais pouvoir répondre et desquelles je vais avoir les réponses après avoir lu ça c'est sûr. Ce qu'on a découvert actuellement dans notre univers, c'est qu'il y a 100 000 galaxies qui est dans notre univers actuellement et une expansion de plus de 500 000 millions d'années-lumière. Notre galaxie, la Voie lactée, elle est de 100 000 années-lumière à travers tout ça, juste pour vous donner une échelle de comparaison. Là. La forme spirale qu'on connaît bien et qui est donnée à notre galaxie forme d'ailleurs le 2/3 de toutes les galaxies découvertes jusqu'à présent. Et la spirale, elle est bien connue comme une des formes les plus utilisées par la nature. D'ailleurs, elle est très, très importante. On parle entre autres Fibonacci, qui a un calcul qui est basé sur la spirale, le colimaçon, les fleurs poussent en spirale. Moi, je suis une fan de spirale. Et la galaxie est toujours en rotation, tout comme le système solaire qui voyage à une vitesse, attention, de 828 000 km/h.
C'est pas rien.
Ben, t'espères de ne pas pogner une roche. Je veux dire. Ça prendrait d'ailleurs au système solaire 230 millions d'années pour faire le tour de la Voie lactée, de notre Soleil. Là, faire le tour de notre galaxie, ça prendrait 230 millions d'années. Et on se rend également compte que la Voie lactée fait partie d'un gigantesque amas de galaxies qui est 100 fois plus gros qu'on le croyait précédemment, en fait. Parce que oui, les galaxies se tiennent en groupe appelé amas. Et les régions qui sont très, très denses dans le nombre d'amas ainsi présentes s'appellent super-amas. Et la Voie lactée fait partie d'un super-amas. Les scientifiques qui l'ont découvert ont d'ailleurs appelé le super-amas le...
Amas ou amant, je sais.
Amas.
Okay. J'avais mal compris.
Amas, A-M-A-S. Le super-amas dans lequel nous faisons partie avec la Voie lactée s'appelle le Laniakea ou le Laniakea. C'est un mot hawaïen, en fait, qui veut dire le paradis incommensurable ou encore horizon céleste illimité. Et notre galaxie n'est pas dans le centre, ça se trouve à une frontière très, très éloignée. On n'est pas le noyau de ça. Et les scientifiques ont également recueilli des données. Actuellement, on a des données sur plus de 8000 galaxies avoisinantes. Je parle pas de planètes, là.
Des galaxies.
Je parle de nombre de galaxies. 8000 galaxies avoisinantes. C'est là qu'on en est rendu. Moi, pour vrai, là, plus je lisais où on en était rendu dans diverses sources, et plus je me sentais tout petit.
Oui, on est... Ça fait le sentiment qu'on est vraiment une petite goutte d'eau dans la mer.
Mais très importante, parce que s'il n'y avait pas de goutte d'eau dans la mer n'existerait pas.
Mais c'est l'immensité de ces galaxies, de cet espace, c'est impressionnant.
8000 galaxies. C'est là où on en est rendu dans nos connaissances, parce que je l'ai dit quand même, actuellement, ça représente beaucoup plus nos limites dans nos connaissances que les limites de l'univers elle-même, lui-même, dirais-je. Mais on a réussi à cartographier la position de ces galaxies-là et leur mouvement dans l'espace également. Et cette méthode-là dépasse la simple localisation de la matière comme on faisait avant parce qu'on réussit à détecter l'influence des galaxies les unes sur les autres au lieu de juste les voir. On observe leur comportement et leur inter-influence. Donc là, on avance tranquillement pas vite dans ce qu'on est capable d'observer. Et ça nous permet également actuellement de construire des cartes de régions encore non répertoriées jusqu'à maintenant. On est rendu assez loin. Et je parlais de super-amas. Eh bien,
super-amas.
Super-amas.
Eh bien, répétez après moi.
Super-amas. Eh bien, auparavant, on avait placé la Voie lactée dans le super-amas de la Vierge, mais maintenant, on rectifie le tir et on se rend compte que cette partie-là représente seulement une annexe du paradis incommensurable dont je vous ai nommé le nom hawaïen tantôt que je leur dirai pas parce que sincèrement c'est pas fluide.
Emmanuel, c'est très intéressant tout ce que tu dis, je vais le reprendre dans un souper samedi soir, ça va me donner un peu de contenu.
Sincèrement, là, j'ai hâte de rejouer à quelques arpents de piège avec ma famille parce que je vous garantis que c'est des données ou des réponses que j'aurais pas eu avant cette semaine. J'ai appris énormément de choses et à travers ce super amas qu'on a découvert, on y découvre un nombre de soleils. Combien tu penses qu'il y a de soleils dans notre super amas? Donc, je vous rappelle qu'un super amas, c'est un amas de galaxies dont fait partie la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous. Combien y a-t-il de soleils dans notre super amas qui s'appelle...
1000
soleils. Jean-Sébastien, à la régie, me semble que ça serait ton genre de question de quelques arpents de piège. As-tu une idée?
83 729.
83 000 soleils. Non, on parle de 100 millions.
Quoi?
De milliards de soleils. Je vous laisse sur cette donnée plus qu'éloquente. Et moi, je suis une petite goutte d'eau.
Bouche bée.
Petite goutte d'eau. Et là, on vient de parler de l'univers. Comment tu te sens, Catherine, après toutes ces données incommensurables, on va le dire?
Je me sens petite et grande à la fois.
Ah! Oh, mon Dieu, j'aime ça!
Oui. Oui, mais consciente de voir qu'il y a l'infiniment petit et l'immensément grand, et il faut naviguer entre ces deux sphères.
Bien, effectivement, parce que quand je regardais des images, entre autres, de nos galaxies, de notre univers, je vais le dire comme ça, on voit que ce sont des réseaux galactiques, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais pour vrai, l'appariement entre le réseau que j'ai vu dans les galaxies et à l'intérieur des galaxies est le même réseau. Si tu m'avais montré sur pause cette image d'un réseau que j'ai observé, puis tu m'aurais demandé c'est quoi, j'aurais dit c'est un réseau neuronal. Réseau de neurones dans notre cerveau. Donc, quand tu parles de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, c'est le micro et le macro qui se ressemblent tellement et on est toujours sur le même patron. C'est à s'y méprendre, sincèrement.
C'est sûr, ça donne le vertige en même temps, hein?
Un peu. Mais puis, écoutez, c'est quoi le film qui était sorti avec Sandra Bullock il y a quelques années de ça? Gravité, probablement en français. Merci, Jean-Sébastien. Et j'écoute pas beaucoup de films. Moi, je ne suis pas une fan de films. C'est trop long. Mais lui, je l'avais écouté. Et à un moment donné, où elle a plus d'attache, puis dans l'espace, toute seule. Et là, je me suis assise. Hein. J'étais dans mon lit, je me suis assise parce que j'avais vraiment un sentiment de trop grand, sincèrement. Mais j'ai pas terminé de vous rendre toute cette... disons, ce sentiment du petit et de grand qui bouge, là. Parce que là, on a parlé de l'univers avec un grand U, mais les recherches ont développé une nouvelle théorie, celle de la théorie, en fait, multi-univers. Celle où, vous l'aurez deviné, là, ça sous-tend l'idée que notre univers infini ne serait finalement pas tout ce qui est.
Moi, je suis vraiment pour la légalisation du cannabis, hein?
On est vraiment dans des... Non, mais pour vrai...
Je t'écoute parler.
Regarde bien où on en est. En fait, la théorie multi-univers implique des notions de métaphysique et de physique quantique plutôt élaborées, mais grosso modo, il y aurait des copies de notre univers à l'infini, donc des copies de nous-mêmes dans d'autres univers qui font exactement la même chose ou pas que nous, présentement. Il existerait aussi des univers parallèle, complètement différent de celui dans lequel on évolue actuellement et qui répondra à des lois de la physique absolument différentes, là, dont on n'est même pas capable de concevoir parce que ça ne fait pas partie de notre monde d'aucune façon. Et il y a même une théorie qui nous expliquerait comment contacter ces univers parallèles, théorie qui a été complétée par nul autre que Stephen Hawking avant son décès. Il est décédé récemment. Et juste un peu avant sa mort, et cette théorie-là, ou ces nouveaux travaux à Stephen, que j'adorais d'ailleurs, présentent les formules mathématiques pour bâtir un appareil spatial avec le potentiel de détecter un nombre multiple de Big Bang. Parce que qui dit Big Bang dit formation de l'univers. On se comprend, jusque-là, on suit. Là. Et qui dit multiple Big Bang dit de multiples univers. Quelle perspicacité. Et ça me fait penser au film. J'ai pas écouté de film, mais je parle de film. Je suis pas très fan de film, mais je sais pas pour ceux qui l'ont écouté. Vous rappelez-vous d'un film avec Gwyneth Paltrow? Je pense que c'est un film qui date des années 90. Là, je retourne loin dans le temps et ça s'appelait Les Portes du Destin. Et moi, je devais avoir à peu près... Oh, j'étais pas vieille quand j'ai vu ce film-là qui passait à la télé. Et c'est l'histoire d'une femme, justement, qui se fait congédier de son travail et dans une version de son histoire, elle manque le métro et dans l'autre version de son histoire, elle ne le manque pas nécessairement. Et là, tout le film nous démontre deux possibilités de vie en fonction de chaque choix que l'on fait.
Ah, c'est fou! Donc, en parallèle,
et ça m'avait marqué,
en
là,
parallèle, le pour, le contre...
Et c'est ce que la théorie, entre autres, les univers parallèles, ce qu'ils nomment, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un petit choix, aussi petit que d'arrêter à se chercher un café ou pas, crée un dédoublement.
Il y a quelque chose qui suscite mon attention, Emmanuel, dans ce que tu viens de dire.
Vas-y.
Ça a l'air qu'on peut contacter ces univers-là.
On les appelle.
Comment ça marche concrètement?
Oh là, actuellement, je n'ai pas fait de recherche très approfondie sur cette partie-là, mais ta question est très pertinente. Mais si je me fais actuellement ce que Stephen Hawking essaie de faire, c'est de créer un appareil physique. Donc, il y aurait un aspect physique dans ça. Quel type de physique? Physique classique ou physique quantique? Ceux qui continueront ces travaux pourront nous le dire.
Thank you.
on parle souvent de ralentir dans nos vies pour atteindre le bonheur, hein, d'en faire moins, de relaxer. Mais il y a aussi un bonheur à être plus organisé, plus productif, considérant les demandes que nos vies quotidiennes requièrent. Et on peut améliorer notre bien-être à travers le temps qui court et les responsabilités. On en parle avec l'initiateur du projet « Ma journée idéale », Jean-Sébastien Trudel. Monsieur Trudel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Ça me fait grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Le mandat du défi 30 jours est le suivant. Bon, le défi 30 jours, ma journée idéale, c'est d'être productif comme le PDG d'une multinationale, d'avoir le focus d'un athlète tout en restant zen comme un moine bouddhiste. C'est possible, ça?
En fait, l'idée derrière ça, c'est que ce sont des outils qu'utilisent déjà les athlètes, les PDG et les moines que j'ai combinés dans le défi puis dans le guide « Ma journée idéale ». Donc l'idée derrière, c'est de simplement reprendre ces outils-là qui ont déjà été développés, qui sont déjà éprouvés, que les gens utilisent déjà depuis, dans certains cas, des millénaires.
Mais c'est ça exactement. Ce que j'entends, c'est que c'est un e-book qui est basé empiriquement. Là, c'est pas...
Exact. Exactement. C'est quelque chose, en fait, qu'au départ, la petite histoire de ça, c'est que moi-même, j'occupe un rôle privilégié dans le sens où, dans mon travail, je suis appelé à aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale. Je me suis impliqué beaucoup dans le développement durable depuis plus de 10 ans maintenant. Et à un moment donné, je suis passé à travers... c'était pas une dépression diagnostiquée, mais c'est une pré-dépression, un moment où j'avais un épuisement avancé, j'arrivais pas à me souvenir de ce que je devais faire dans ma journée, j'avais difficulté à lire des documents, donc pas très pratique quand on doit faire ça à longueur de journée. Mm-hmm. Et le médecin m'a dit, ben, idéalement, prends un peu de repos. Et ma grande crainte, c'était de retourner au travail et de vivre à nouveau la même situation, alors que dans mon cas, j'adorais mon travail. J'aimais beaucoup ce que je faisais à ce moment-là. Et donc, je voyais pas comment on pouvait en arriver à un état d'épuisement comme celui-là si on aimait ce qu'on fait, mais il n'y a pas que le travail. Hein. Le médecin me l'a bien dit, c'est tout ce que je vivais à ce moment-là, tant du point de vue familial qu'au niveau du travail, que du sommeil, que la vie, c'est pas des petits compartiments.
Non, non, on est un être multidimensionnel, puis on essaye d'arrimer tout ça au mieux au quotidien. Là.
Et donc, pour éviter de retomber dans cet état-là, je me suis bâti un outil qui était basé sur des choses avec lesquelles on travaillait déjà pour les entreprises qu'on accompagnait, des outils de gestion du changement, des outils de gestion des priorités. Je me suis dit, je vais les appliquer à la place de le faire pour une organisation, je vais les appliquer à moi comme individu. Et ce petit outil-là m'a beaucoup, beaucoup aidé au départ. Et de fil en aiguille, les amis m'en ont demandé, ils m'ont demandé comment je faisais. Et là, je leur partageais ce que moi je faisais, dans le fond, tu sais, sur le brouillon, sur ma feuille. Mais avec le temps, j'ai fait quelque chose d'un peu plus structuré et c'est devenu le guide de ma journée idéale. Puis pour aider les gens à l'adopter, ben je l'ai fait sous forme de défi 30 journées où je dis aux gens essentiellement, essayez-le pendant 30 jours et vous allez voir le changement par la suite parce que vous allez avoir incorporé dans votre routine du matin, dans votre habitude quotidienne, ce guide-là qui va vous aider essentiellement au quotidien à prioriser ce que vous voulez faire réellement pour avancer vers votre objectif, votre rêve et éviter les distractions essentiellement.
Monsieur Trudel, si on devait changer une chose, parce que c'est sûr, c'est beaucoup de choses à incorporer, c'est le stress, on entend plein de choses. S'il y avait une petite chose qu'on pourrait tout de suite incorporer, ce serait laquelle?
L'habitude du matin. Je pense que mes recherches m'ont amené à constater que la plupart des, que ce soit les grands athlètes, que ce soit les moines bouddhistes, que ce soit les grands PDG, tous les gens qui sont performants, si on veut, dans la société, ou qui accomplissent leurs rêves, même. Mm-hmm. Soyons aussi simples que ça, même pas sans parler de grandes performances, simplement des gens qui vont vraiment
au bout de leurs idées.
Mm-hmm. C'est ça. Ben, eux, dans leur cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une routine matinale. Et cette routine-là peut inclure justement la rédaction, mais ça peut être de la méditation, ça peut faire. Et ça n'a pas besoin d'être très long. Hein. Dans mon cas, écrire ce qu'on veut faire dans notre journée dans le guide, ça prend environ 4 ou 5 minutes, mais développer cette routine-là qui va nous permettre de planifier le reste de la journée ou d'être bien pour le reste de la journée. Des fois, ça peut être simplement de faire des étirements ou pour d'autres personnes, ça peut être de manger certaines choses, s'assurer de bien les manger le matin, développer une routine du matin ça peut rapidement faire une grande différence du jour au lendemain.
Donc là, ce que vous dites, c'est peu importe ce que vous allez choisir à faire dans votre matinée, en autant que vous créez une routine et que vous vous y teniez. C'est ce que vous me dites?
Exactement. Exactement. C'est ce qu'on voit, c'est ce que les meilleurs font. Ils développent une routine matinale et même ils vont avoir une routine avant de coucher, de manière à optimiser leur nuit de sommeil également, s'assurer de bien s'endormir, pas en étirant le temps devant les écrans, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est des mauvaises habitudes. Hein? Mm-hmm. On peut les remplacer par des meilleures habitudes. Mais oui, c'est ce que les meilleurs font, c'est de développer cette petite routine-là parce que un exemple ici que les moines bouddhistes vont faire, c'est qu'ils vont, avec la méditation, ils vont réussir à simplement vider leur esprit, se concentrer sur le moment présent. Et ça, en soi, ça peut transformer notre journée, même si on le fait que 4 ou 5 minutes. On n'a même pas besoin de le faire pendant des heures. Ça peut être très court. Mm. Mais le fait de le faire à tous les jours, c'est plus important que de le faire une fois de temps en temps, plus longtemps, par exemple.
Mais ce que ça résonne en moi, en fait, c'est que créer cette routine-là, la portée de ça va beaucoup plus loin et ça crée une espèce de discipline également. De tout le temps de s'y tenir, là, ça peut nous donner une discipline qu'on peut après transférer ailleurs, j'imagine.
Bien, cette discipline-là, tu sais, je pense qu'on l'a déjà. Dans la gestion du changement, une des choses qu'on utilise, c'est spécifiquement ça. Donc, identifier les moments de routine qui existent déjà pour y ajouter un changement. Donc, exemple, si vous devez prendre un médicament à tous les jours à la même heure, bien, le meilleur moment pour le faire, ça va être, par exemple, quand vous brossez les dents. Donc, vous mettez votre médicament à prendre à côté de votre brosse à dents parce que vous savez que vous allez vous brosser. Ça fait déjà partie intégrante de votre routine. Donc, ce sont effectivement des outils qu'on peut utiliser pour amener les changements positifs qu'on souhaite avoir dans notre vie.
Et je vous ai entendu aussi nommer la possibilité ou l'idée de planifier notre journée. Donc, de prendre un 3 minutes pour planifier ce qu'on va faire dans notre journée, ça nous fait économiser du temps, ça, au long cours?
Je pense pas tant que c'est une question de temps que d'objectif, pour moi. Parce que, la plupart des gens vont faire plein de choses dans leur journée. Il y a une liste à descendre, comme si toutes les choses dans leur liste avaient peut-être le même niveau de priorité, ou enfin, on essaie de tout faire dans une journée, puis on n'y arrive pas. Ça, c'est la réalité. Et quand on regarde ce qu'on a réellement fait dans les 5-7 derniers jours par rapport à ce qu'on aimerait faire qui va nous amener un bénéfice supplémentaire en lien, par exemple, avec un rêve qu'on veut accomplir ou un projet qu'on veut mettre sur pied, et là, on se rend compte qu'on a fait toutes les autres petites affaires qui étaient peut-être importantes, mais pas nécessairement alignées avec ce qu'on souhaite faire progresser.
De ne pas éparpiller nos énergies, là, tu sais.
Bien, exactement. La différence, c'est quand on est capable de dire, bon, mais ça, là, exemple, là, présentement, moi, je suis en train d'écrire un livre, donc j'utilise ce journal-là pour pouvoir me donner comme objectif à tous les jours de progresser dans l'écriture de mon prochain livre. Or, dans ma journée, je ne fais pas que ça. Mais le guide me sert à m'assurer que quand je me couche le soir, bien, j'ai avancé sur cet objectif-là en particulier parce que c'est lui qui va me permettre de faire un bond important vers ce que je veux accomplir ou vers mon objectif de vie essentiellement.
Donc, M. Trudel, vous croyez en quelque sorte à l'autosuggestion? Si vous écrivez puis que vous le planifiez, c'est comme un peu se convaincre soi-même que ça va marcher, je sais pas. Comment vous le voyez?
C'est vraiment drôle. C'est pas une croyance que j'ai, mais je l'ai observé dans ma vie. Exemple, quand vers l'âge de 25-26 ans, j'avais lu le livre là, de Pierre Morency, puis il disait de faire une liste de rêves de vie. Et moi, cette liste-là, je l'ai écrite au moment de lire le livre, puis ensuite, je l'ai complètement perdu de vue, je l'ai oublié. Et au moment de déménager, quelques années plus tard, je l'ai retrouvé, et là, j'ai découvert que j'avais réalisé tout ce qu'il y avait sur cette liste.
Wow.
Donc, je pense qu'effectivement, puis aujourd'hui, j'ai un autre défi là, pour aider les gens à trouver leur passion, et j'ai beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui m'écrivent pour me dire que oui, effectivement, ça marche. Maintenant, est-ce que les raisons pour lesquelles ça fonctionne, je ne les ai pas étudiées, mais d'après moi, il y a certainement quelque chose qui va de l'ordre de si on alimente ce rêve-là dans notre subconscient, bien, nécessairement, avant de pouvoir passer à l'action, ça doit exister dans notre tête. Donc, nécessairement, ça va orienter certaines de nos actions, certains de nos choix. Ça ne peut pas nuire, en tout cas. Ça ne peut pas nuire.
Bien, absolument pas. Puis c'est un peu l'idée de créer notre vie à partir de nos idées, à partir de nos pensées. On les met sur papier. On le dit souvent, écrit. Ça revient à ça, là.
Bien, tu sais, puis même en vente, exemple, les vendeurs vont nous faire signer des choses, par exemple. Pourquoi? pas parce que ça nous engage légalement, simplement, des fois, ils vont nous faire signer, comme quoi on va assister à une réunion, hein, puis, et là, quand on fait ça, ben, l'idée, c'est que les études montrent que ceux qui ont signé, qui ont créé cet engagement-là, ont plus de chances à venir à la rencontre que ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc, quand on le met par écrit, j'ai l'impression que ça fait un peu le même genre, c'est le même genre de mécanisme qui est à l'œuvre, et ça nous donne donc plus de chances de réussir les choses qu'on souhaite réussir. C'est parce qu'à la fin de la journée, ça coûte pas cher. En fait, ça coûte rien de faire ça. C'est juste un peu plus de temps pour l'écrire ou pour le planifier. Mais quand on le fait, dans mon cas quotidiennement, mais à la fin des 30 jours, les gens veulent adopter un rythme de une fois par deux jours, par trois jours, ça leur appartient. Mais l'idée, c'est qu'ils continuent à avoir cette routine-là de manière régulière pour se donner le plus de chances de réussir qu'ils souhaitent accomplir.
Bon, c'est peut-être pas pourquoi ça fonctionne comme vous l'avez nommé vous-même, mais quand on vous regarde aller, qu'on regarde tout ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent, ça nous donne suffisamment d'indices pour avoir envie au moins de l'essayer. Si les gens veulent essayer ou faire partie directement du défi 30 jours, ma journée idéale, on peut se rendre sur le jean-sébastien-trudel.com/ma-journée-idéal. Monsieur Trudel, merci infiniment d'être venu nous donner vos secrets de productivité.
Puis c'est une très belle source d'inspiration.
Absolument.
Monsieur Trudel.
Ben, je vous remercie, ça fait très plaisir.
Bonne fin de journée, au revoir. Les journées mondiales et internationales de la semaine, oui, la semaine du 29 mai au 4 juin 2018, et je prends un plaisir fou à aller piger dans les différentes journées ce qu'on célèbre, ce qu'on... Il y a tellement de nouvelles et de surprises pour moi dans ces journées internationales et mondiales-là. Le 29 mai, on commence avec la Journée internationale des casques bleus, proclamée par l'ONU pour rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes, personnels civils, policiers et militaires qui ont servi dans les 71 opérations de maintien de la paix, oui, pour souligner leur professionnalisme, leur dévouement, leur courage et pour honorer la mémoire des 3700 casques bleus qui ont perdu la vie au service de la paix également depuis 1948, dont 134 hommes et femmes encore en 2017. Cette année, pour célébrer le 70e anniversaire, la journée a pour thème 70 ans de service et de sacrifice. En 2018, c'est 100 000 militaires, policiers et civils déployés dans 14 opérations sur 4 continents qui assurent le maintien de la paix des Nations Unies. Le 30 mai, Journée mondiale pour le droit aux origines. Cause que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, toi, Catherine.
Non.
Qu'est-ce que ça résonne pour toi? Qu'est-ce que ça sonne, droit aux origines?
Ben, droit pour nos origines.
C'est à peu près... Non, mais pour vrai, ça a été mis sur pied en 2014 par la Coordination des actions pour le droit à la connaissance de nos origines et qui, vous le devinerez, oui, milite pour le droit de toute personne à retracer les siennes et à savoir d'où il vient. Et là, on ne parle pas juste de refaire notre arbre généalogique. Moi, c'est ce qui était venu un peu à mon esprit, là, tu sais, de pouvoir retracer d'où on vient par nos ancêtres, mais on se pose de sérieuses questions qui ont une portée importante, comme la possibilité de retracer les parents biologiques quand un enfant est né sous un parent inconnu, par exemple, un parent X.
Ça, c'est vrai.
Exactement. Et le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a alors été mis sur pied afin de reconnaître les enjeux et les régler avec, bien sûr, sur le plan légal, en respectant les droits de tous les acteurs dans ces histoires-là, le cas échéant. C'était pour le 30 mai. C'est ça, la Journée mondiale pour le droit aux origines. J'ai trouvé ça absolument fantastique.
C'est extraordinaire, on ne le savait pas.
Absolument pas. 30 mai également, Journée mondiale de la sclérose en plaques, soulignée le dernier mercredi du mois de mai depuis 2009. Elle se veut une journée de sensibilisation et d'information pour cette maladie du système nerveux central qui touche pas moins de 2 millions de personnes à travers le monde avec un ratio de 1,7. Femmes pour un homme. On n'a encore trouvé aucun traitement curatif, donc le thème cette année est « Se rapprocher ». Et c'est axé sur la recherche pour bien sûr se rapprocher d'un traitement définitif et efficace de cette maladie invalidante, invasive et surtout imprévisible jour après jour pour les personnes qui en sont atteintes. 31 mai, journée mondiale sans tabac. Probablement une de mes célébrations préférées parce que c'est un combat que j'ai moi-même longtemps mené de me débarrasser.
Depuis combien de temps?
Que je mène le combat ou que j'ai arrêté de le mener? J'ai été un peu dans une zone grise dans les derniers temps. J'ai déjà arrêté 2 ans, j'ai déjà arrêté 1 an et demi. Là, je vous dirais que ça fait un bon 4 mois que je n'ai pas... Ouais,
c'est merveilleux.
Ça va bien. Ça va très bien, puis sincèrement, c'est merveilleux. Je veux dire, moi, je veux chanter dans la vie. Donc, c'était un combat qui était particulier pour moi. Je devais le faire et je suis extrêmement contente. Parce qu'en plus du concours J'arrête, je gagne, qu'on connaît tous, ou en tout cas qui est très, très populaire, de plus en plus d'initiatives sont mises en œuvre pour éteindre ce fléau-là qu'est l'addiction au tabac. Donc, les conséquences du tabac sur la santé n'étant plus à démontrer. Là. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an.
C'est horrible.
Et passera bon premier dans les causes de décès à travers le monde devant le sida, la tuberculose, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés.
Il faut savoir que 80% des gens qui meurent d'un cancer du poumon fument.
Absolument.
C'est pas 1%, c'est 80%.
Sans parler de
C'est un vol direct vers la morgue.
Effectivement, et ça, c'est sans parler de la fumée secondaire. Et d'ailleurs, au Québec, par rapport à ça, en 2018, il y a le projet de loi S5 qui vise à réglementer davantage la cigarette électronique, moyen alternatif qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui demeure, pour le moins, encore assez mitigé ici.
C'est sûr.
1er juin, journée mondiale des parents. Toi, Catherine, qui est maman, je salue ma mère d'ailleurs, l'ONU. L'ONU est à l'origine de cette journée en 2012 pour rendre hommage, bien sûr, à tous les papas et à toutes les mamans du monde qui s'oublient souvent pour permettre aux enfants d'évoluer dans le meilleur climat matériel et affectif possible. Et on connaît d'ailleurs les défis qu'être un bon parent implique en 2018. Là, les bonnes façons de faire n'arrêtent pas de se multiplier, de changer également. Donc, voilà, je vous salue, parents, vous êtes courageux, je trouve. Moi, je suis maman de chat. Alors, seulement, c'est encore tolérable sur le plan des défis. Encore. Et le 3 juin, je termine avec cette journée du 3 juin, qui est probablement la journée la plus récemment inaugurée, puisque c'est le 23 avril dernier, là. Donc le 23 avril 2018, que l'ONU instaurait la Journée mondiale pour le vélo. Et par cet acte, l'ONU reconnaît la contribution du vélo aux 17 objectifs fixés par l'organisation elle-même en matière de développement durable, soit un développement apte à promouvoir la prospérité et les opportunités économiques, un plus grand bien-être social et la protection de l'environnement. C'était les Journées mondiales et internationales de la semaine.
Oh, merci.
Plaisir. Est-elle démissionnée? On va toujours et encore pour une deuxième semaine consécutive rejoindre Robert Blondin, qui est au Nicaragua actuellement et qui quand même tenait à nous parler de bonheur. Moi, je trouve que c'est un bonheur de l'entendre chaque semaine. Robert, bonjour!
Bonjour! On s'entend bien?
Tout est correct.
Ben oui, on parlait de bonheur un peu. Évidemment, je suis dans un environnement extraordinaire parce qu'il y a deux volcans derrière moi, il y a un lac devant et il y a des perroquets et du vent et une nature merveilleuse.
Ça se passe toujours bien?
Ça se passe bien. Je poursuis mon écriture et j'ai fait des exercices de bonheur aussi. On avait déjà parlé, si tu te souviens bien, de se comparer à d'autres. Alors, quand on est dans un pays, comme Nicaragua, c'est très différent de ce que nous sommes comme culture. Et c'est intéressant d'observer les gens. Alors, peut-être que tout le monde peut faire ça, à Repentigny, à Sainte-Agathe ou à Montréal, de se comparer aux autres. Et moi, je le fais ici beaucoup, et je regarde des gens passer, et je me concentre à dire, OK, cette dame, ce monsieur qui passe, qu'est-ce que j'ai de différent, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à moi, par rapport à eux?
Mais on en a parlé souvent, du moins, moi j'en parle souvent de cette théorie de comparaison sociale qui a émergé en fait dans le milieu du dernier siècle et qui est à la base de la définition de notre identité. Donc clairement, je vois que là, en te ramassant au Nicaragua, c'est sûr qu'il est beaucoup plus saillant dans ta vie actuellement. Là.
Si tu voyais le perroquet que je vois, t'en reviendrais pas. Il est tellement beau. Là. Je continue en te disant une chose, que ces comparaisons-là nous amènent aussi à des conclusions, même au niveau social. Et la ligne est moins bonne. Mais quand on reviendra un peu plus tard dans l'émission, si c'est possible, je te parlerai de l'aspect plus social, plus politique du Nicaragua, qui nous permet des réflexions en tant que Canadiens, que Québécois.
Donc, ce qu'on est en train de comprendre, Robert, c'est que dans ton nouveau contexte social, pour t'inspirer, tu as aussi la capacité de te comparer. Et c'est quoi la phrase « quand on se compare, on se console » prendrait un sens à ce moment-là?
Ou on se désole, ça dépend.
Donc, de comprendre la place qu'on a et de chérir ce qu'on est, ce qu'on possède, ce qu'on peut faire dans nos capacités et dans tout, le faire souvent et apprécier.
Ou se rendre compte de quelque chose qu'il faut changer parce que ça ne nous plaît pas, que c'est pas une bonne chose. À plus tard, j'essaierai plus tard de te rejoindre.
Super. toujours avec Robert, qui est au Nicaragua et qui a quand même des bonnes nouvelles. Tu as eu quand même des bonnes nouvelles ou des nouvelles, des nouvelles différentes. On peut dire quand même qu'à Aime la vie, il y a des bonnes nouvelles et il y a des nouvelles également qui sont différentes. Et là, c'est des nouvelles, je dirais, in vivo pour toi.
Ben, in vivo, qui sont ici au Nicaragua pas très bonnes. Parce que, bon, les manifestations ont encore lieu. On est rendu à plusieurs dizaines de morts maintenant dans ces manifestations-là. Il faut voir d'où ça vient. Daniel Ortega, au moment des Sandinistes, il y a maintenant plusieurs années, même que les Américains avaient combattu ses tentatives de prise de pouvoir, il a finalement réussi à installer sa révolution pour avoir un régime de social-démocratie, un régime de gauche où les partages seraient mieux élaborés entre les différentes classes sociales. Les pauvres seraient moins pauvres, et pour ça, il faut que les riches soient moins riches. Alors, on avait fait ça, ça allait assez bien. Par exemple, au Nicaragua, on s'aperçoit que, j'ai déjà parlé, des coopératives qu'il y a ici, toutes les productions de bœuf, les productions agricoles, et en général, même les pêchers, sont la plupart du temps des coopératives. Même le transport, camion, train, c'est aussi fait en coopérative. Sauf que M. Ortega, et je ne peux pas aller très loin, me demander pourquoi, j'aimerais ça revenir chez nous, M. Ortega, dans ses idées de gauche, avait le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite, ce qui fait qu'il s'est apparemment très enrichi aux dépens de la population et d'où viennent les manifestations qui veulent maintenant le renverser. J'en parle simplement, on le sait dans les nouvelles, simplement pour qu'on se compare. On parlait plus tôt dans l'émission, là, quand on compare nos deux sociétés, on s'aperçoit que notre démocratie à nous a aussi ses fautes. On s'aperçoit que dans notre société, on le voit bien ici quand on voit tous les gens qui se promènent, qui sont bien sûr moins bien nantis que chez nous, on s'aperçoit que leur conscience sociale est beaucoup plus développée. La solidarité humaine est comme tributaire du fait qu'on a peu de moyens. Quand on a beaucoup de moyens, on est beaucoup moins solidaires les uns des autres. Alors, ça fait réfléchir. On est en période électorale, à toute fin pratique, et quand moi, je vois tout ce que les politiciens font, qui n'est finalement qu'une quête de pouvoir, c'est-à-dire que c'est une joute, simplement une joute de type sportif. On présente les sondages chez nous au Québec comme des scores de parties de hockey et que la démocratie, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ça sert à changer, à gérer une société, à gérer le partage meilleur dans une société. Je le vois ici, je vois les gens qui en sont convaincus, qui sont prêts, dans certains cas, ils en sont morts depuis quelques semaines, à se battre pour ça. Et chez nous, on prend tout pour acquis. Et quand je serai de retour chez moi, je vais sûrement m'en souvenir et en parler à certaines personnes.
Et l'appliquer également. Merci beaucoup, Robert.
Au revoir.
Et quel bonheur cette semaine. Je me trouve chanceuse. Je suis comme gâtée parce qu'on a Robert qui a pris de son temps au loin pour venir nous parler, mais j'étais aussi Catherine à mes côtés pour me parler des choses qui ont fait ton bonheur cette semaine.
Ben, mon bonheur et le bonheur de plusieurs personnes. Alors,
bonheur partagé, toujours mieux.
Oui, mais on parle d'amour et de relations sexuelles. Des relations sexuelles hebdomadaires après 50 ans stimulent la mémoire. Du moins, c'est ce que dit une étude publiée dans la revue américaine Journal of Gerontology. Alors, ils ont interrogé 28 hommes et 45 femmes.
De 50 ans et plus, ça?
Entre 50 ans et 83, sur la fréquence de leur rapport sexuel. Et ils ont aussi, par conséquent, mesuré leur capacité cognitive. Alors, les personnes qui ont affirmé avoir une activité sexuelle au moins une fois par semaine sont celles qui avaient des expressions verbales plus fluides, qui avaient une capacité de se représenter dans un environnement, dans l'espace. Donc, c'est intéressant, il y a un lien avec la sexualité et la cognitivité. Il est possible que si on augmente nos activités sexuelles, ça améliore encore plus nos performances intellectuelles. En fait, c'est ce qu'affirment les auteurs de cette étude conjointement menée par l'Université Oxford et Coventry au centre de l'Angleterre. Bon, vous passerez sur mon anglais, mais c'est... en fait, mais il y a des préjugés, hein. En fait. Quand ils ont écrit, celui qui a écrit, qui a relaté tous les chiffres du bienfait de faire l'amour après 50 ans, il y a des préjugés parce qu'ils disent les gens n'aiment pas imaginer que les personnes âgées peuvent avoir des relations sexuelles. Donc, c'était un peu difficile d'amener les gens...
De parler de ça.
À parler de ça et ouais. Puis même aller chercher...
De le promouvoir aussi.
Le promouvoir puis aller chercher les personnes qui voulaient se prêter à l'exercice.
Ah, ben oui.
Mais ils trouvent ça dommage parce que ça a vraiment une conséquence... Une conséquence directe sur nos capacités intellectuelles, sur notre cognitivité.
Notre humeur également.
Humeur, absolument. J'ai lu aussi que cette étude-là faisait en sorte que les gens qui avaient deux rapports sexuels de 15 minutes, c'était excellent pour la santé, et dans certains cas, faisait tomber les antidépresseurs parce que la sexualité faisait office...
Par jour, par semaine, par mois?
Deux fois par semaine, okay. 15 minutes. C'est, en fait, on dit que c'est la durée moyenne d'un rapport sexuel, en fait, dans cette étude-là. Alors, ils ont voulu analyser dans cette étude-là les substances chimiques, notamment la dopamine et l'oxytocine. Entre la vie sexuelle et le fonctionnement du cerveau. Ça dit quelque chose, là, qu'on parle de la dopamine?
Ben, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et l'ocytocine, c'est l'hormone, en fait, de l'amour. C'est l'ocytocine, elle est sécrétée, entre autres, pendant l'allaitement, entre la mère et le bébé. Ça en sécrète beaucoup quand on se fait des câlins également. Donc, il y a vraiment... C'est l'hormone relationnelle, en fait.
OK.
Donc, effectivement, c'est ma logique.
Moi, ce que je me suis dit, Emmanuel, en lisant cette étude, ben, pour ceux qui ne sont pas trop pour faire du sudoku, c'est sudoku? Non, mais comment on appelle ça, ces jeux chinois?
J'ai ri en cochon.
Non, mais faites l'amour au lieu de faire des mots croisés ou du sudoku.
Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Catherine, mais la chercheure en moi, l'ancienne chercheure en psychologie, se questionne à savoir, parce qu'on a étudié l'activité sexuelle chez les 50-83 ans, et ma question est la suivante, parce que je veux savoir qu'est-ce qui vient avant. Est-ce que les personnes qui sont cognitivement plus... aptes, je dirais ça comme ça, ont tendance à être plus actifs sexuellement ou les gens qui sont plus actifs sexuellement tendent à retrouver ou à maintenir une bonne cognition ou un bon fonctionnement de notre cerveau finalement? Tu sais, qu'est-ce qui vient avant?
Mais je pense qu'ils ont
ça serait une question que
Mais
j'aurais.
Je pense qu'ils ont tout simplement analysé les résultats puis l'impact sur la santé.
Ben moi, je referais une étude. Je prendrais cette étude-là comme base puis je dirais, OK, est-ce que ce sont les gens qui sont plus présents mentalement qui font plus l'amour ou est-ce que faire plus l'amour nous garde plus en forme dans notre cerveau.
Je pense que c'est les deux. Oui, c'est ça.
À suivre quand même. Waouh, merci. Merci beaucoup. Donc, puis l'énergie sexuelle, c'est super important. Donc, moi, je vais le dire, j'en suis pas gênée. On promeut la sexualité chez les plus de 50 ans. Très important. Moi, je te parle d'environnement. Et j'aime beaucoup parler d'environnement.
On change un peu de sujet quand même.
Ben, c'est important de s'informer sur plusieurs éléments quand même. Je te parle d'environnement. En fait, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il y a un restaurant qui donne de la crème glacée gratuite en échange de seaux de déchets trouvés sur la plage. Ça se passe à Blyth, au nord-est du Royaume-Uni, donc qui borde la mer du Nord. Et c'est une initiative de ce petit commerce-là, cette petite crèmerie-là, en fait, pour nettoyer la plage, parce que ça borde la mer. Ils donnent de la crème glacée à ceux qui arrivent avec un seau de déchets pour encourager le nettoyage des espaces publics. Et moi, j'aime mieux ce qui encourage les gens que ce qui est dissuasif. Je crois plus aux récompenses qu'aux punitions. Mm-hmm. On va le dire de même, là. Alors, c'est une approche que j'ai trouvée absolument géniale, rafraîchissante. Et on le voyait sur la vidéo que j'écoutais, on voyait des enfants de 6 ans qui avaient pris leur journée pour aller nettoyer les plages, pour aller se payer cette crème glacée-là. Donc, j'ai trouvé ça beau et je voulais vous le partager.
C'est si très
ça donne, ben, si ça donne l'idée à quelqu'un ici, un commerçant ici, de faire la même chose, ben, je pense que ça pourrait donner un coup de main puis on aura une petite aide supplémentaire pour...
Absolument. On va appeler notre mairesse.
On va appeler notre mairesse. Oui, je te laisse le téléphone. Et parlant de sucre, ça me fait penser au diabète. Il y a un nouveau dispositif qui surveille le taux de sucre qui a été inventé. Un dispositif qui se veut une alternative aux piqûres puis aux tests aussi que les personnes atteintes de diabète doivent se faire plusieurs fois par jour pour vérifier le niveau de sucre dans le sang. Entre autres, avant de manger, après manger. Pour ceux qui ont côtoyé des gens atteints de diabète, c'est quand même une hygiène de vie qui est extrêmement différente et qui est stricte. Ça s'appelle le Freestyle Libre, ou le freestyle libre, mais comme c'est en anglais, moi je dis libre, je me donne un accent.
Ça fait Cuba libre, c'est presque exotique.
C'est fait par la compagnie Abbott. C'est approuvé par l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Ça mesure les niveaux de glucose en scannant avec un petit senseur. C'est comme un petit rond qu'on colle sur la peau, donc c'est très peu invasif, c'est même pas sous-cutané, là. C'est un peu comme ceux qui ont vu les patchs quand on arrête de fumer. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai essayé souvent. Donc, ces petites patchs-là, mais c'est plus non, c'est plus haut, au contraire, okay. Parce que les patchs, c'est très, très mince. Mais c'est quelque chose que tu mets sur ta peau et qui scanne, en quelque sorte, ton taux de sucre dans le sang. Et c'est à changer aux 10 jours seulement. C'est un petit écran qui vient avec, un peu comme... c'est gros comme un cellulaire. Et on peut évaluer, ça nous montre nos données. Et donc, ça nécessite très peu de changements dans notre journée. Ça nécessite très peu d'entretien. C'est visuel. C'est pas... Ça blesse pas
c'est
le
pas
corps.
C'est pas contraignant.
Ah non! Et fait que j'ai trouvé ça absolument génial. Déjà
c'est une bonne
que,
nouvelle.
Ben, déjà que l'alimentation est difficile à gérer, que les contraintes sont nombreuses pour les personnes atteintes de diabète. Je trouve que ça allégeait un petit peu le quotidien. Je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Je trouve ça génial. Je ne sais pas quand ça sera disponible au Canada, encore moins au Québec, mais sachez que ça existe. Bonne nouvelle. C'est déjà presque tout pour nous cette semaine. Merci,
ça
Catherine.
Ça passait trop vite.
C'est vrai, hein?
Oui.
Merci. Mais est-ce que tu veux être avec moi pour la dernière semaine du départ de Robert la semaine prochaine?
Oh, ben,
tu restes des nôtres?
Demander comme ça.
Ah.
Absolument.
Oui, c'est ça. Je fais
oui,
mes yeux de petit chat. Oui, c'est ça. Je te remercie personnellement, Catherine, pour ta co-animation, mais également pour la recherche d'avoir trouvé notre invité, M. Jean-Sébastien Trudel. Et je le remercie à son tour d'être venu nous parler du bonheur, d'être productif cette semaine. Je remercie également Robert Blondin d'avoir pris le temps de nous parler à travers son écriture et son inspiration. Je remercie également Jean-Sébastien Laliberté à la régie. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci.